C'est pas rendre hommage à James Brown que de couper sur le dou-da-da-da-da. Il y a des moments, évidemment, de la chanson qui étaient plus inspirés en paroles. François, c'est ce tabouret-là que vous vouliez?
Oui, c'est-à-dire que je peux aussi utiliser celui qui est là à ma gauche, mais les deux qui sont là-bas de l'autre côté de la table, je ne suis pas à mon aise, je ne trouve pas l'humeur, je ne trouve pas les mots quand je suis sur ces tabourets-là.
Ceux qu'on voit là.
Oui, ceux qu'on voit là qui sont.
Donc Atman, ce tabouret vous échoue, est-ce que oui. Ça vous convient?
Mais écoutez, je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Non, je voudrais que vous preniez ça pour faites que de cette mauvaise fortune une bonne fortune, essayez de transformer...
Je vais essayer.
Il fait mais pas, pour moi, patron, champ, il fait pas d'efforts, Atman, hein, patron.
Non, il fait pas tellement d'efforts. Mais
patron, vous avez
trouver sa chaise, trouver un endroit où se poser ou s'asseoir, trouver un lieu où se coucher, trouver une rue où marcher, trouver un camarade qui vous donne un peu de son sandwich à midi, trouver notre endroit, nous, sur cette terre. C'est le grand sujet de la vie. On y reviendra tout au long de la matinée avec vous, François, bien sûr. Avec Atman. Vous avez trouvé, François? Vous savez où habiter sur cette terre?
Oui, puis comme je dis souvent, ce qu'il faut trouver, c'est surtout sa trouvaille.
Bien sûr, ça vous le dites très souvent, mais continuez à le répéter parce qu'il y a peu de personnes pour l'entendre.
Oui.
Avec un très gros bisou, bien sûr. Thierry Paré, Forever.
Radio Nova.
C'est l'info de la nuit. Hein. Il était recherché depuis la nuit du jour de l'an, depuis qu'il avait ouvert le feu dans une célèbre discothèque d'Istanbul sur la foule, faisant 39 morts. La police turque a donc mis la main hier soir sur Abdulgadir Macharipov, ouzbek de 34 ans, auteur présumé de la fusillade. Ils ont aussi mis la main sur 5 complices présumés. Abdulgadir Macharipov aurait été arrêté dans un appartement d'Istanbul où il se trouvait avec son fils de 4 ans. Rien à voir, mais quand même, 5 morts, c'est le bilan d'une autre fusillade dans une autre discothèque au Mexique. Cette fois, un homme a ouvert le feu dans la foule, il est en fuite. Une simple dispute entre particuliers serait à l'origine de ce drame. Quand un îlot français inhabité et perdu au fond de l'océan Indien déclenche les passions, les députés vont se prononcer demain sur un accord sans précédent de cogestion de l'île de Tromelin avec l'île Maurice, qui en revendique la paternité depuis 1976. C'est un dossier sensible qui a été porté jusqu'à l'ONU. Certains, surtout à droite, y voient un abandon de souveraineté susceptible de démanteler notre domaine maritime. Tromelin n'est pourtant qu'un simple caillou dans l'océan, on va dire un confetti à l'échelle de la planète, mais son poids économique il est très relatif, mais il s'accompagne cet îlot d'un espace maritime de 250 000 km² dont les sous-sols sont réputés riches en hydrocarbures. Après une crise politique sur fond de Brexit et l'effondrement de la coalition au pouvoir, des élections législatives anticipées se tiendront en Irlande du Nord le 2 mars prochain. C'est tendu en ce moment en Irlande du Nord. Toujours à propos du Brexit, si les 27 pays de l'Union européenne n'acceptent pas les exigences du Royaume-Uni, Londres deviendra une sorte de paquebot pratiquant le dumping fiscal et social aux portes du continent. Déclaration du ministre britannique des Finances avant que la première ministre, Theresa May, ne prononce un discours présenté comme stratégique sur le Brexit. Un discours qu'elle va prononcer tout simplement... aujourd'hui, qui pour succéder à Martin Schulz à la tête du Parlement européen? Les députés de Strasbourg vont choisir aujourd'hui le nouveau président de l'hémicycle européen. Les 14 vice-présidents et 5 questeurs seront également élus à l'issue de ce scrutin. Le candidat à la présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, Philippe Poutou, en difficulté pour réunir ses 500 parrainages, a lancé un appel aux élus et aux médias au nom du respect de la démocratie. Ses proches l'avaient annoncé début décembre, voilà qui est fait. Les statuts de l'association souhaités par Cécile Duflot, pour une république écologique ont été déposés. On était prévenus, ça y est, on est dans le dur, il fait très froid ce matin, les températures sont négatives, hormis sur le littoral, c'est une vague de froid intense qui va culminer demain et qui va s'étendre jusqu'à dimanche prochain. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE, a assuré que les besoins en électricité de la France seraient assurés aujourd'hui face à cette vague de froid, mais qu'il pourrait être amené à déclencher des mesures exceptionnelles demain. Selon l'Observatoire du Loup, des loups auraient été élus domicile dans le sud de la région parisienne, entre l'Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne, sur une superficie de 100 000 hectares. Les traces retrouvées, une tanière notamment, ne laissent aucun doute à cet observatoire du loup. Les loups seraient là et pas seulement de passage.
Les loups sont rentrés dans Paris.
Oui, oui, Atman.
Voilà, Serge Reggiani. La CAN, suite la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du foot. Le Congo a créé la sensation hier en battant le Maroc 1-0.
Nova.
En ces jours de grand froid, ouverture de l'espace exotique, l'espace tropical, de plus près de toi. Dans les îles du Tremelin, nous avons installé notre studio avec le chargé de tourisme du Tremelin. Bonjour François.
Bonjour Edouard.
François, il fait 35 degrés, la chaleur est insupportable. Vous portez vous-même un maillot de bain plein de peau.
Oui, mais je ne dirais pas que la chaleur est insupportable. C'est ce que beaucoup de nos touristes viennent chercher ici, cette douce chaleur, moi je dirais plutôt, et puis surtout la chaleur du cœur. Hein.
Bien entendu, mangue, papaye, bronzage, massage, je crois... Ça me fatigue d'avance ce sketch. Je n'ai plus envie de m'y lancer.
Ah, si, c'était bien.
Ah, oui, mais ça vous est du bien parce que vous étiez encore dans l'idée que les gens espèrent se rendormir avec la radio.
Oui.
J'imaginais quelqu'un qui a mis son réveil à 7 heures qui écoute ça et qui dit : je vais rester un tout petit peu au lit.
Hein ? Il faisait froid sous la couette, mais non, mais moi j'ai bien aimé. J'étais parti pour prendre un mojito comme ça et me baigner avec un canard. Ça aurait été super.
Je vous prie de m'excuser. Bien ce que j'ai fait. J'ai cassé des rêves. Oui. C'est un peu comme des casseurs de grève.
Oui. En même temps, l'idée du canard, moi j'étais moins...
Oui, ça ne m'aurait pas...
Oui, parce que si je peux me permettre,
vous en prie.
Bien sûr, évidemment qu'il peut se permettre.
Bah, tiens. Tromelin est inoccupé, il n'y a pas d'habitants.
Ah, il n'y a pas d'habitants.
Mais, excusez-moi,
il...
j'ai rien dit. Oh,
hein, d'accord. Ok, on recommence.
Alors là, il y a quand même des heures de rêve.
On pinaille ce matin, oui, on rentre dans les détails, voilà.
Peut-on inventer un centre de tourisme sur une île inhabitée ? Ce qui se disait s'apparentait-il à un sketch ? Vos réactions au 01 43 07 58 85. 01 43 07 58 85. Peut-on rire avec la météo ? A tout de suite.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
L'économie, c'est un truc qui sent l'ail. Vous l'avez entendu dans ce morceau, Les Villards, d'émission sur Nova.
Merci Armel pour votre participation à cette première tranche de l'émission. On a eu des appels suite à la question « Peut-on rire avec la météo ?» Bastien, 27 ans, vous nous avez appelé ?
Oui, tout à fait.
Peut-on rire avec la météo, Bastien ?
Écoutez, je voulais vous dire quelque chose d'intéressant, mais je crois que je suis un peu comme vous, Edouard. Je ne suis pas très réveillé, du coup, je me suis un peu exactement.
Pardon, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas cette remarque du tout. Mais vous savez, très souvent, vous ne vous rappelez pas ce que vous disiez avant de l'avoir dit. Moi, c'est après de l'avoir dit. Et souvent, c'est les auditeurs après qu'on l'ait dit. Donc, on est tous un petit peu à des points concordants, je dirais, ce matin. Bastien, rassurez-vous, vous êtes à quelle étape de votre journée ?
Je suis à la toute première, je crois.
Vous êtes comme l'enfant qui vient au monde, vous êtes encore dans les langes de la journée.
Oui. J'étais en fœtus il y a quelques instants.
Oui, est-ce que vous êtes accompagné dans ce moment douloureux de votre journée ou est-ce que vous êtes seul ?
Écoutez, il me semblait l'être que je l'étais avant de me coucher, mais là je suis plus.
Et oui, on se réveille rarement avec les mêmes personnes à qui on se couche, même si c'est la même physiquement, le point de vue n'est plus le même. Très bonne journée, Bastien. Je vous souhaite de vous coiffer, de vous désodoriser dans des endroits de votre corps qu'ils nécessiteront. Très, très bonne journée.
Merci.
Allez, on se réveille tous ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, réveil Mambo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu ce matin, François Tuen ? Charlène, le matin, vous faites quoi ? Vous regardez la presse ? Vous regardez dans le miroir ? Vous faites quoi ?
Non, j'émerge très doucement.
Très doucement, donc pas d'infos encore par Charlène.
Si, moi, je vous l'ai dit, il y a encore, comme je disais hier, il y avait trop de magiciens, je trouve que dans Paris...
Ah oui, hier, vous aviez tout un thème, vous trouvez qu'il y avait
trop de magiciens dans Paris.
François, vous êtes d'accord avec ça ? Il y a trop de spectacles de magie, d'après vous, ça a épuisé à
Il y en a combien ?
Il y en a un paquet.
C'est une sensation, peut-être.
Non, je vais pas donner des chiffres, mais il y a des affiches partout.
C'est la sensation.
Ouais, je crois
voilà, il y avait Langevin, il y avait Kamel qui était coupé en deux hier et tout. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de mentalistes.
Mais vous en prenez spécialement à ce magicien-là, il y en a arrêté d'avoir des têtes de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de mentalistes, vous trouvez ?
Trop de mentalistes.
Parce qu'il y avait un article.
Oui, un article, il y a Mesmer, surtout Mesmer qui avec ses gros yeux encore de Dominique Webb, peut endormir une salle, peut faire rire une salle.
C'est plus difficile de réveiller une salle que d'endormir, non, François ?
Oui, Mesmer, c'est pas un escroc ?
Sûrement. Hein.
Non, mais pardon, je mets un peu les pieds dans le plat.
C'est un homme politique, mais là, c'est mentaliste.
Justement, le mentaliste, mais c'est pas un escroc total.
Non, il fait beaucoup d'émissions.
Ça s'appelle de la magie, ça s'appelle.
Non, je crois que ça s'appelle de l'escroquerie, plutôt.
Peut-être,
tout simplement. Ça s'appelle prendre les gens pour des cons, tout simplement.
Enfin,
si on veut être affranchi, il n'y a qu'à regarder sur le net. Comme ça, on retrouve le public de Mesmer qui nous dit bien que les gens endormis sont les mêmes d'un vendredi à l'autre.
Il réveille, il endort les gens. Il est très, très connu, quand même.
Oui, mais il peut être connu pour des mauvaises raisons. Après, peut-être que un spectacle, c'est trop. Marie, vous avez vu quoi ?
Ça veut dire qu'il y a des gens qui enquêtent dans les salles où il fait ses spectacles, qui reviennent tous les vendredis pour vérifier que c'est les mêmes gens qui s'endorment.
Parfaitement. Ou bien ils disent, moi j'y étais hier soir, et puis celui qui fait le chien et qui se pisse dessus, c'est un petit blond avec des cheveux un peu frisés, et un petit début de barbe. Le diable, c'est bizarre, parce que moi, le même. Alors, il faisait le chien aussi.
Ça peut être le même spectateur qui se déplace beaucoup. Je trouve que vous avez... Oui,
Vous pensiez ça, bien sûr.
Vous pensiez tout.
Non, mais, c'est un peu fatigant. Vous enlevez de la magie et
déjà,
du rêve.
Vous savez que
vous enlevez du rêve.
Les grandes gueules,
Je peux dire quelque chose quand même. C'est de l'escroquerie. Déjà que l'obscurantisme est de retour, 46% des gens pensent que le caractère dépend du signe astrologique. En 2017, on en est encore là. Il y en a marre, quand même. Il y en a marre. Hein, monsieur Kelly.
Je l'attendais.
C'est dommage.
Je vous remercie
c'est
de m'avoir invité.
C'est dommage que ça se passe
quand
comme ça.
Mais ça se passe toujours
Thomas
comme ça.
Thomas Baumgartner, ce matin, qu'est-ce qui vous
a... C'est typiquement le type de propos tenu par un Gémeau, je trouve.
Ah, c'est très, très Gémeau. À propos de Gémeaux, l'horoscope de ce matin. Allez-y, pendant ce temps-là, vous, Marie, qu'est-ce qui vous a fait tilter, flipper, flasher ce matin?
Moi, j'ai trouvé Libération très perfide ce matin. Ils m'ont fait rire, mais je les ai trouvés très perfides. Ils parlent d'Henri de Castries qui rejoint la campagne.
On dit Henri de Castres, je crois, attention.
De Castres, très bien. Qui rejoint la campagne de François Fillon et disent tout au long du mois de décembre, Henri de la Croix de Castres a tergiversé. L'idée d'exposer sa famille à la curiosité médiatique ne l'enchante pas plus que son épouse et cousine issue de Germaine, Anne. Donc ils disent qu'elle est épouse et cousine et puis ils n'en rajoutent pas un mot.
Vous vous moquez de ces familles françaises qui se sont battues pour le roi et pour la République plus tard?
Pour se marier avec leur cousine germaine?
Non, c'est pas si
je demande. Est-ce que c'est les mêmes?
Un peu d'horoscope. Bélier, attention en général, méfiez-vous de tout. Taureau, surveillez votre haleine et celle de vos proches. Gémeaux, de très bonnes nouvelles, sauf pour vous. Lion, voilà. Non, c'est l'horoscope du Parisien ce matin.
Moi, je suis Bélier, je suis content.
On est bien, on est droit dans nos bottes. On peut envoyer un morceau. On a déjà.
Pourquoi on dit Castries
On dit Castres. Comme on dit pas, comme le Breuil, ça s'écrit Brogli. Ce sont des règles françaises.
C'est,
on dit
c'est
pas
la France,
Talleyrand.
C'est la bonne
on
France.
On dit Talleyrand. Qu'est-ce que j'ai comment et on dit pas. Bah, mais on, voilà, chacun.
Ah,
ça fait des années que vous me dites qu'on défend votre prénom. J'ai dit j'en ai marre qu'on m'appelle Hatmen. Je comprends très bien.
Ah, pourtant. Vous l'aviez bien prononcé.
Bah merde, à tout de suite.
Oh, comme exactement, comme si un bélier...
Continue à être très remonté.
Non, mais si vous remettez
matin,
en cause les
non, je ne le remets pas en cause, je demande.
Voilà, pendant que... Conversation astrologie derrière. Et pendant ce temps-là, j'ai appelé Florence Guibert.
Non, Gilbert, bonjour.
Bonjour Florence.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très
c'est
bien.
La question, vous savez, usuelle du matin. Florence, si je vais sur la plateforme WeMove que vous avez créée, qu'est-ce que je trouve?
Alors, sur une plateforme WeMove, la première chose que vous allez trouver, c'est un conseiller mobilité. Donc, c'est une personne qui va essayer de comprendre quelles sont vos difficultés pour vous déplacer. Est-ce que c'est une problématique financière que vous vivez, physique, matérielle ou alors cognitive? Donc, financière, est-ce que vous avez des moyens pour pouvoir vous déplacer? Cognitive, c'est le frein qu'on connaît le moins. C'est j'ai une problématique, en fait, j'ai peur de sortir de chez moi, je ne sais pas utiliser les moyens de transport qui sont à ma disposition. Et donc, le conseiller mobilité va vous accompagner, en fait, à pouvoir utiliser ces moyens de transport. Par trois biais, on a des formations. On a, par exemple, des auto-écoles, on a des vélo-écoles, on a des formations pour savoir prendre le bus. On a également de la mise à disposition de matériel, donc on peut faire de la location de voiture, de la location de scooter. On a également l'information sur les transports en commun. Et on a également une dernière branche qui est une branche accompagnement, qui sert particulièrement pour les personnes qui peuvent être malvoyantes, par exemple, pour pouvoir se déplacer dans les transports en commun, ou évidemment pour les personnes âgées.
Alors il y a 25 plateformes régionales WeMove en France. J'ai lu que grâce à WeMove, beaucoup de gens retrouvent des emplois. Est-ce que le déplacement, la mobilité est un problème à la base de beaucoup de pertes ou de difficultés à retrouver de l'emploi en France?
Alors, le frein à la mobilité, c'est le premier frein au retour à l'emploi. Il y a aujourd'hui en France 7 millions de personnes qui sont en empêchement de mobilité. 20% de la population active qui est en empêchement de mobilité. Il faut savoir qu'il y a une personne sur deux qui a abandonné un emploi à cause d'une problématique de mobilité. Donc oui, le frein à la mobilité aujourd'hui, c'est véritablement un des premiers freins à lever qui est transverse pour pouvoir accéder à l'emploi. WeMove, on accompagne 10 000 personnes par an sur nos 25 sites et on a plus de 50% de retour à l'emploi.
Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des idées de solidarité? Il y a un côté covoiturage, comme dans Blablacar? Il y a des rencontres? Comment ça se passe? Comment est-ce que les gens sont mis en rapport avec d'autres véhicules?
Ce n'est pas obligatoire. obligatoirement des moyens de transport innovants. Évidemment, il y a le covoiturage, mais il y a simplement, par exemple, le fait de former à l'utilisation des transports en commun. On a 14% des gens qui retrouvent un emploi grâce aux transports en commun. Parce qu'en fait, on ne sait pas prendre le bus, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller le chercher, on ne sait pas où est-ce qu'on doit descendre, on a peur de l'utiliser. Et donc, on va lever l'ensemble de ces freins et on va permettre selon l'utilisation. Donc, ça va être vraiment la location de voiture pour des personnes qui en ont besoin pour faire de longs trajets avant d'être en capacité d'en acheter. Donc, on va pouvoir faire un microcrédit avec quelqu'un pour lui permettre de pouvoir acheter une voiture et pour pouvoir se déplacer. C'est de la location scooter, de la location de vélo et toute l'information relative à cette utilisation.
Alors, excusez-moi, c'est un peu naïf ma question. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en France qui, par manque d'informations ou de formation, enfin, ne savent pas se servir, ne savent pas où trouver des transports en commun qui leur permettraient d'accéder à des endroits où trouver des emplois.
Exactement. Aujourd'hui, vous arrivez sur le territoire français, c'est une nouvelle manière de vous déplacer. Vous ne savez pas lire, vous n'avez pas de carte de crédit, vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes une mamie au cinquième étage sans ascenseur. Toutes ces situations peuvent vous amener, en fait, à vous retrouver en difficulté pour vous déplacer. Et là, j'ai pris les cas les plus extrêmes, mais il y a parfois des cas très, très simples. Je suis en difficulté de mobilité parce que ça fait très longtemps que je suis en demandeur d'emploi. J'ai perdu confiance en moi. La mobilité, ça demande aussi beaucoup de confiance en soi pour pouvoir se déplacer et sortir de chez soi. Et donc, l'ambition, c'est vraiment d'accompagner toutes ces personnes-là à pouvoir se déplacer.
Bon, bah, j'espère que ces personnes arriveront à aller sur Vimove. C'est un site qui est simple à lire, à pratiquer.
Oui, et de toute façon, généralement, les accompagnateurs à l'emploi accompagnent justement nos bénéficiaires à pouvoir utiliser nos différents services.
W-I-M-2-O-V, allez voir, .org, le site Vimove, la plateforme. Wimove, W-I-M-O-O-V. Bravo Florence, merci, je fais pas tes...
Merci beaucoup, excellente journée.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
On part à la campagne un peu.
L'éveil de la nature.
L'éveil de la nature.
Nous sommes à Camblane, dans l'Entre-deux-Mers, face à Bordeaux, sur les premières côtes de Bordeaux. Nous sommes dans l'exploitation de Xavier You à La Lande. Bonjour Xavier.
Oui, bonjour.
Xavier, j'ai une question très précise pour vous. Que se passe-t-il dans votre exploitation ce matin à 7h29?
Eh bien, ce matin, je viens d'allumer les lumières. Les agneaux se sont réveillés. Les cochons viennent de déjeuner à l'instant. Je viens de préparer le biberon, voyez, pour les petits qui ont besoin d'un peu complément de lait. Il fait bon, il fait moins 3 degrés. Une lune magnifique sous les bois, sous les arbres, dans mon exploitation.
Alors Xavier You, il fait bon, il fait moins 3 degrés, n'est pas une phrase qu'on entend très souvent en ville en tout cas. Vous avez dit j'allume la lumière, je réveille les moutons, parce qu'il fait donc encore nuit. Vous voulez dire que c'est un peu comme des enfants qu'on réveille, sinon ils auraient dormi jusqu'à quelle heure ces moutons?
Et jusqu'à que j'arrive en général, donc ils attendent que j'allume la lumière, tout le monde est couché, tout le monde se lève à peu près, j'arrive à peu près tous les jours à la même heure, donc ils attendent patiemment que j'arrive tout simplement. Et ça se réveille, on regarde, je suis en pleine mise bas en ce moment, donc j'ai des nouveaux-nés le matin, de temps en temps qui arrivent, des surprises. Ce matin, il n'y en a pas, mais je m'occupe de ceux qui sont présents déjà.
Alors j'entends que vous êtes fêté, hein, puisque vous êtes attendu, j'entends des bêlements de joie.
Oui,
voilà Xavier.
C'est ça, les petits agneaux qui m'attendent, parce que j'ai préparé le biberon déjà, pour leur donner, parce qu'il y a des agneaux qui ont besoin d'un complément de lait, d'autres que les mères allaitent amplement. Donc voilà, je prépare pour ceux qui ont faim, qui ont besoin de rabais.
Alors vous allez être là, vous allez nourrir combien de petits agneaux biberons ce matin?
Non, ce matin j'en ai que deux. J'en ai que deux qui ont leur maman ont des soucis de suffisant de lait. Les autres vont très bien, ils sont couchés à côté.
Et quel est l'avenir de ces agneaux, Xavier?
à l'avenir de ces agneaux, c'est de la boucherie, hein, puisque ce sont des agneaux fermiers qui finiront évidemment sur des tables.
Voilà, en attendant, votre métier, c'est de les rendre assez heureux de leur vivant ?
C'est ça, le but, c'est de les aimer assez pour que tout profite comme il faut, calmement, simplement, et qu'ils prennent... il ne faut pas que l'animal soit stressé, et le bien-être est très, très important. Et bon, ensuite, l'étape suivante, ce n'est pas moi qui l'a fait.
Alors après, on parlera de notre avenir à nous, êtres humains. Dites-moi, Xavier, vous leur parlez un peu quand vous leur donnez le biberon ?
On parle plus ou moins, comme on dit, on est plus ou moins gaga avec nos bêtes. Vous savez... Sinon, on ne le fait pas. Si on n'a pas la passion de faire des choses, on ne le fait pas bien. Donc, il faut le faire comme il faut. Donc, l'amour de son métier est important pour moi. Je considère les choses comme ça.
Xavier, il y a des champs aussi. Qu'est-ce que vous avez planté ? Vous avez des...
Alors, j'ai des champs. En champs, c'est que des prairies, bien sûr, pour faire du pacage et du foin, du fourrage pour l'hiver. Et quand je plante une prairie, moi je sème, j'en ai refait à l'automne, c'est de l'herbe, c'est-à-dire régras, fétuques, dactyles, trèfles. Voilà, c'est que des herbes à package que je mets. Donc les apiculteurs du coin sont contents parce que les abeilles peuvent aller butiner des prairies fleuries, richement fleuries.
C'est quoi l'humeur ce matin ?
L'humeur, tout va bien ce matin, c'est merveilleux. Les poules se réveillent, là, j'entends les coqs chanter.
Il y a un coq, on entend.
Vous écoutez la radio, vous lisez le journal, vous avez parlé à des êtres humains, vous êtes directement du lit aux agneaux ?
Ah non, je me lève, je me prépare, je déjeune, et quand je vais dehors directement, je vais à mes bêtes.
Le premier son que vous entendez le matin, c'est « bé ».
C'est ça, ou le coq, ou le cochon, ou ce qui m'appelle.
Ah bah ça doit détendre.
Et ensuite, à 8h, je vais réémerger vers un monde. Et donc là, tout le monde à la maison se sont levés après, et donc je vois tout le monde, mes enfants vont à l'école, ma femme se lève, voilà.
Et bien on vous souhaite une belle journée. Nous, on commence la journée avec les infos de Thierry Pareil, un truc qui est un peu plus violent pour l'oreille, mais c'est la vie aussi. Salut Xavier You, merci de nous avoir reçus chez vous.
De rien, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Radio Nova.
C'est pas vous personnellement, Thierry, au contraire, votre voix nous permet d'accepter énormément de choses.
Merci. Hein, on peut démarrer sur un truc un peu léger quand même. Hein. Enfin, on va pas parler de ceux qui dorment dehors, j'en ai vu ce matin, mais bon, voilà, pour les autres. On était prévenus, ça y est, on est dans le dur, hein. Il fait donc très froid à partir de ce matin. Les températures sont négatives, hormis sur le littoral. C'est une vague de froid intense qui va culminer demain. Demain, ce sera la pire des journées en la matière, hein, sauf si vous aimez le froid. Et ça va s'étendre, cette vague de froid, jusqu'à dimanche au moins. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité a assuré que les besoins en électricité de la France serait assurée aujourd'hui face à la vague de froid, mais qu'il pourrait être amené à déclencher des mesures exceptionnelles demain. On avisera demain. Il était recherché depuis la nuit du 31 décembre, depuis qu'il avait ouvert le feu dans une célèbre discothèque d'Istanbul faisant 39 morts. La police turque a mis la main hier soir sur Abdulgadir Macharipov, ouzbek de 34 ans, auteur présumé de la fusillade, ainsi que sur 5 complices présumés. 5 morts, c'est le bilan d'une autre fusillade dans une autre discothèque au Mexique. Rien à voir, hein. Un homme a ouvert le feu dans la foule, une simple dispute entre particuliers serait à l'origine du drame, mais cet homme est toujours en fuite. Quand un îlot français inhabité et perdu au fond de l'océan Indien déclenche les passions, les députés doivent se prononcer demain sur un accord sans précédent de cogestion de l'île de Tromelin avec l'île Maurice, hein, qui revendique la paternité depuis 1976, sauf que certains, surtout à droite, y voient un abandon de souveraineté susceptible de démanteler notre domaine maritime. Tromelin n'est qu'un petit caillou dans l'océan, son poids économique est tout relatif, sauf qu'il s'accompagne d'un espace maritime de plus de 250 000 km², dont les sous-sols sont réputés riches en hydrocarbures. Et alors pour être tout à fait complet, il faut savoir que ce traité de cogestion a été lancé par Mitterrand en 1990 et qu'il a été ensuite signé par Nicolas Sarkozy en 2010, et donc il attend sa ratification peut-être demain. La première ministre britannique
président
va dévoiler...
Mitterrand, le président Mitterrand, soyez un tout petit peu... Soyez
le président genre. Mitterrand
maintenez
et le président
quelque
Sarkozy.
Chose, maintenez quelque chose dans cette émission.
Ok. La première ministre britannique va dévoiler ses objectifs pour le Brexit aujourd'hui. Elle privilégie une séparation radicale de l'Europe et la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique. Les députés européens...
Le président marché unique, soyez un peu... Oui, mettez des hatmens, c'est un peu... Il y a un laisser-aller, quoi.
Ouais, c'est un emporte-pièce.
Oui, c'est pour dire ça, hatmens, c'est pas la peine. Les députés européens vont choisir aujourd'hui le nouveau président de l'hémicycle européen pour succéder à Martin Schulz, hein, qui après 5 ans passé à la tête de l'institution, a choisi de retourner en Allemagne en vue de de se présenter aux élections nationales. Le candidat à la présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, Philippe Poutou, est en difficulté pour obtenir ses 500 parrainages. Il a lancé un appel aux élus et aux médias au nom du respect de la démocratie. On parlait de l'horoscope tout à l'heure. Aimeriez-vous connaître la date de votre mort? Je ne sais pas ce qu'en pense Robert Mugabe, mais le président du Zimbabwe, 92 ans, n'a pas eu le choix. Un pasteur pentecôtiste a prédit son décès. Ce sera le 17 octobre prochain. Il n'a pas précisé l'heure. En tout cas, c'est une prédiction qui lui a coûté cher puisqu'il a été arrêté. Alors comble, il a été arrêté, ce pasteur a été arrêté au tribunal parce qu'il comparaissait pour une autre affaire, pour avoir arboré le drapeau du pays sans autorisation. Oui, parce qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, arborer le drapeau zimbabwéen sans autorisation est un délit depuis l'année dernière seulement, depuis que le symbole a été utilisé par des manifestants anti-Mugabe. Et alors Robert Mugabe, qui dirige son pays depuis l'indépendance en 1980, est le plus vieux chef de l'État en exercice dans le monde. Il fêtera ses 93 ans en février prochain, donc peut-être pas ses 94 du coup. Selon l'Observatoire du Loup, des loups auraient été élus domicile dans le sud de la région parisienne, entre l'Essonne, les Yvelines et la Seine-et-Marne, sur une superficie de 100 000 hectares. Les traces retrouvées, une tanière notamment, ne laissent aucun doute à l'Observatoire des loups seraient là et pas seulement de passage. La CAN, suite, la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est du foot. Le Congo a créé la sensation hier soir en battant le Maroc 1-0. Et puis le handball, aujourd'hui, donc les Français sont déjà qualifiés pour les huitièmes, mais on est encore dans les phases de poule. Et les Français vont affronter les Russes tout à l'heure, qui sont deuxièmes de leur groupe.
Donc sur cette histoire des loups, en fait, j'aime bien l'idée du aucun doute. Il y a des... Aucun doute, ce
sont
des loups.
Mais moi je suis déçu d'une chose, parce que pour moi l'Observatoire du loup, c'est un observatoire qui observe un loup.
Ah, d'accord.
Oui, alors, de savoir qu'il s'occupe de plein de loups, je trouve tout d'un coup ça disperse le truc.
Oui, mais
alors
qu'une
vingtaine de personnes avec des bureaux qui seraient là pour observer un loup, simplement, voilà, jour et nuit, ben, je trouverais ça beau.
Oui, oui, vous êtes resté un enfant et le monde vous fait mal. Hein?
Surtout qu'on a parlé d'agneaux il y a quelques instants.
Je vous ai trouvé un peu cynique d'aller expliquer à M. Hugh que ces agneaux allaient devenir des agneaux et être mangés.
Moi, je me suis réveillé dans une ferme, c'était magique, c'était beau.
Et tout à coup, Roland est arrivé.
Avec ses grosses sachets.
Bah, vous êtes en boucherie, vous étiez là avec votre couteau, vous étiez là, vous étiez là.
Ça s'appelle, vous êtes rattrapé par la réalité et ça vous fait un petit peu du bien parce qu'ici sur Nova, c'est le domaine là, du rêve, du farniente.
Et tu crois que tu vas finir comment, Roland? Avec de l'ail dans le cul et une pomme dans la bouche, toi aussi. On part avec Jacques Chou.
Mais c'est pas possible, il n'y en a pas des 4 XL.
Il y en a des 4 XL.
Non, c'est pas possible.
Vous êtes là, vous avez vu, les 4.
Non, mais les 3, les 4, ça c'est... Qui demande ça?
Bon, c'est pour les personnes âgées et les gens qui sont à l'hôpital aussi.
C'est très large, l'hôpital. 4XL.
Les gens qui sont malades, il faut qu'ils mettent ça pour ça, coton. Parce que ça les... le polystère et d'autres modèles, ça les gratte. Et il y a les gens qui sont gros, avec des gros ventres et tout ça, il faut qu'ils mettent ça.
On est
ça,
sur des t-shirts en 4XL, on est sur quoi, Jacques Souvent?
4XL.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que vous vendez en taille 4XL, madame?
Des culottes dames, il y a aussi pour les messieurs.
Et vous êtes dans quel coin?
À Belleville.
Et là, il y a déjà des gens qui achètent des culottes 4XL ce matin, 7h39?
Non, pas encore.
Ils ne sont pas encore arrivés.
Alors 4XL, je ne me rends pas bien compte, ça fait la superficie de quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans s'il y a pas une personne? Qu'est-ce qu'on peut...
Il y a des gens qui sont... qui sont...
Costauds,
donc ils ont besoin de mettre des culottes aussi.
Ce sont des culottes comment? On est sur du 100% coton, il y a du polyester, il y a des matières synthétiques, il y a quoi, madame?
Oui, il y en a tout mélangé, oui, tout mélangé. Mais ce que je fais, c'est 100% coton, ça vient du Portugal.
Ah ben, c'est le fameux coton portugais, mais dites-moi, ce sont des culottes qui se lavent en machine, qui se lavent à 40, qui se lavent...
Oh, bon, je crois qu'ils lavent ça en machine, parce que ça, c'est du coton, on peut laver aussi à main.
C'est là. Il y a un panel de couleurs, quels sont les coloris qui sont disponibles?
Il y a d'autres, ce qui marche bien, c'est toute blanche, de couleur blanche.
Oui.
Excusez-moi, mais la camouflée, pourquoi il y a une toute camouflée, genre militaire?
Ben, je sais pas, c'est pas moi qui le fabrique.
Mais madame, les militaires mettent des culottes camouflage, vous pensez?
Mais les civils aussi, ils les mettent.
Et est-ce qu'il y a des culottes pour plusieurs corps de métier, des culottes pour le clergé, des culottes qui sont liées à des...
Oui, il y a des culottes pour tout le monde.
Et vous-même, madame, sans, vous me dites si je vais trop loin, vous...
Je crois que vous allez trop loin.
Je vous prie de m'excuser. Non, mais on est là, on est entre eux.
Béatrice, elle m'a invité à boire parce que ici, il fait assez froid. Tous les maraîchers, là, sont là depuis 3h, 3h30 du matin. Il y avait quelqu'un qui faisait du feu dans les allées avec des cagettes. Et Béatrice, elle m'a invité à boire une... c'est quoi, c'est un...
Un thé en gingembre.
Un thé au gingembre, ça, oui, ça fout la niaque, ça, oui.
C'est bon, ça.
Un thé au gingembre.
Oui.
Et vous avez déjà vendu des culottes, madame, ce matin? J'ai envie de rester sur les culottes toute la matinée.
Pas encore, parce qu'il est encore matin, là.
Bon, il va vous en acheter, Jacques. Souvent, à votre avis, il fait quelle taille en culotte, notre chroniqueur?
Il y a à partir de taille M jusqu'à 4XL.
Oui, mais le monsieur en face de vous avec le micro, là, il fait combien?
Le monsieur, je crois qu'il fait XL.
XL, oui. Et on peut les essayer ou il faut les acheter direct?
Non, vous achetez direct, c'est, même dans les magasins, on ne sait pas les culottes.
C'est pas les culottes.
C'est pas génie comme ça.
Non. Je vous remercie, madame, je voudrais rester là-dessus, sur ce... avoir ce bon souvenir de vous, de vous dire même qu'on n'essaye pas les culottes,
beaucoup.
Je pense que c'est une vision de la vie, je suis d'accord avec vous. Je me permets
merci
de vous embrasser, chère madame.
Bonne année, bonne année.
Très bonne année, très bonne santé à vous, à votre famille, à vos amis, à vos voisins, à la famille des voisins et aux amis de la famille des voisins.
À vous, parlez-moi.
Ah mais non, détaillez-le, chère madame. Merci.
À bientôt.
Salut, bonne journée.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me délecte.
Non, non, Pat, il ne faut pas prendre les choses comme ça. On embrasse Pat, qui n'est pas avec nous d'ailleurs ces jours-ci, qui est à Angers, qui est en méditation pendant encore quelques semaines à Angers. Bonjour Grégoire Bizot.
Bonjour.
Grégoire Bizot, vous faites partie de la fine fleur des observateurs de la vie politique française internationale.
Voilà, absolument.
Vous acceptez le compliment? Normalement, les gens disent non, non, bon, bah, d'accord.
Ah non, mais moi, si. Je suis peut-être même la fleur.
Ah, vous êtes la fleur.
On m'appelle Petite Fleur dans le métier. C'est, oui.
Vous êtes une Edelweiss, parce que même l'hiver, vous êtes là. Vous êtes la première à fleurir à la fin d'hiver. Grégoire, vous avez regardé le débat des primaires socialistes. Vous suivez beaucoup la campagne en ce moment du côté gauche de la politique. Vous avez l'impression qu'un homme ou une femme qui sont habitués à voter à gauche depuis toujours, là, ne savent plus trop quoi faire.
Alors oui, là je pense que l'électeur de gauche, si cet électeur existe, enfin celui qui a pris l'habitude de mettre son bulletin plutôt à gauche, il est soit totalement perdu, soit un peu paumé à mon avis. Bon, normalement un électeur, il y a toujours deux électeurs en nous, si je peux dire. Il y a l'électeur utopique, celui pour qui on vote, pour qui défend le mieux nos idées, hein, celui en qui on croit le plus. Et puis, il y a un électeur un peu plus stratège, tactique, qui vote pour celui le moins pire, celui qui peut gagner. Il n'est pas tout à fait comme je voudrais qu'il soit, mais avec lui, je peux aller loin. Hein? Et puis, évidemment, ces deux électeurs, ils cohabitent dans notre cerveau, ils sont parfois en lutte, voilà.
Parfois, il y en a le premier et le second tour pour ça. Hein.
Voilà, et souvent, on a le premier et le second tour pour cette gymnastique. Il se trouve que la vie de l'électeur de gauche, jusqu'à l'élection de François Fillon, était très simple, parce que tout le monde avait projeté l'élection d'Alain Juppé. On s'était dit, Alain Juppé, c'est un homme de droite. Bon, dur peut-être, mais ma foi sur les valeurs, il est à peu près présentable. Il sera le président de la République. Basta Lolo.
Beaucoup de gens de gauche étaient même prêts à voter beaucoup pour lui dans l'hypothèse d'un second tour Le Pen.
Absolument, ouais. Sans aucun problème. Et donc, ma foi, si on va aux primaires de la gauche qui se prépare, c'est pour reconstruire. Donc, lâchons-nous. Hein, inventons une gauche d'utopie, de demain, etc. D'où, hop, l'envolée de Benoît Hamon à Hamon, qui a un programme de rupture, qui pense comme ça à la société de demain, qui projette la société française à horizon 50 ans. Et il dit, bah voilà, moi je prépare une société du non-travail, il faut s'y préparer maintenant, etc. Donc les gens disent, bah ouais, c'est intéressant, on y va. Mais patatras, tout d'un coup, dans le cerveau de l'homme de gauche, on s'est dit, mais en fait, avec Fillon, on peut peut-être gagner.
C'est-à-dire que Fillon paraissant tellement conservateur, d'une droite plus traditionnelle,
voilà,
plus antique.
Voilà, absolument. Tout d'un coup, il libère un espace. Et puis on se dit, mais en fait, Fillon, c'est vraiment la droite qu'il nous faut. Ça peut effrayer un peu le centre. Et d'un seul coup, il y a peut-être un espace politique progressiste pour l'emporter face à Fillon. Et alors là, panique dans le cerveau de l'homme de gauche. Il dit, mais... Et donc, qui est en mesure d'éventuellement être... au deuxième tour de l'élection, soit face à Fillon, soit face à Marine Le Pen. Et là, l'hypothèse Macron surgit de nulle part. Ouf. Et ce monsieur, ancien banquier, ancien secrétaire général de l'Élysée, se met à remplir des salles comme une rockstar. Et principalement, il faut bien reconnaître, des gens de gauche un peu perdus et un peu ne sachant pas très bien à quel sein se vouer. Et se disant, mais est-ce qu'avec ce jeune garçon, on n'a pas une carte maîtresse? Et donc là... On a une espèce de primaire qui qui se passe pas si mal. Hein. On avait dit, ça va être nul, ce PS est mort, la gauche est abonnée ou absent, plus personne n'est intéressé par ça. Bon, il faut quand même 2 millions de... un peu plus de 2 millions d'audience. Les débats sont très, objectivement, sont un peu, je le dis tout bas, mais sont un peu chiants. Hein. Mais malgré tout...
Y a voilà, vous dites chiant parce qu'il y a du fond au lieu d'être invectif.
Non, pas du tout. Pas parce qu'il y a du fond. C'est parce qu'ils restent un peu sur leur couloir, ils égrènent leurs propositions. Ça débat assez peu. Voilà, c'est pas très vivant, ça débat assez peu. Mais c'est un peu technique. Je comprends que ça soit un peu ennuyeux. Malgré tout, il y a un appétit. Malgré tout, tout le monde dit, on va se déplacer, on va voter. Mais... Il y a un espèce de double vote, il y a une espèce de primaire, et après on se dit, mais le vainqueur de cette primaire, qu'est-ce qu'il va faire avec Macron? Donc il y a une double incertitude, d'où la grande confusion mentale dans laquelle aujourd'hui se trouvent les électeurs.
Alors justement, entre Mélenchon et Macron, est-ce que vous avez l'impression que le débat à la primaire du Parti Socialiste a ramené des gens vers un vote socialiste plus traditionnel, un vote de gauche plus traditionnel?
Oui, mais ils ont bien intégré que le fait que, enfin, en fait, c'est une première primaire et idéalement, il faudrait dire, après cette primaire, et si on faisait encore une autre primaire, c'est-à-dire on dit à Mélenchon, bon, alors d'accord, ok, tu veux pas te retirer, à Macron, bon, ok, tu voulais pas jouer, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est trois, hein, on sait très bien que s'il y en a qu'un seul, il a de grandes chances d'être au deuxième tour et d'éviter un duel droite Front National. Qu'est-ce qu'on fait tous les trois? Donc là, il va y avoir une espèce de bataille. Alors, je pense qu'elle va être un peu bas de gamme, cette bataille. Parce qu'elle va être, c'est moi le plus fort, t'as vu mes sondages, mais toi, t'es qui pour me dire ça? Mais de toutes les façons, je peux pas me rallier derrière toi. Donc ça va durer un mois. Je pense que ça va vraiment être...
Ça va être moche. Ça
va être...
Là, vous allez dire que c'est pas ennuyeux. Ah, décidément, Grégoire, vous êtes paradoxal. Merci, Grégoire Bizot.
Merci.
J'aime bien cette chanson, Augustin. C'est Oumu Sangaré, tu vois. Elle chante pas vraiment là, elle chante dans la radio. Tu as déjà fait de la radio, toi?
Non.
Du théâtre, tu as fait?
Oui.
Et du vélo aussi?
Oui.
Et qu'est-ce que tu préfères?
Le vélo.
Voilà.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Augustin, là, on va pas faire de vélo, parce que tu sais que quand tu fais du vélo à la radio, pour les gens, c'est pas intéressant, parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas regarder, quoi. T'es d'accord?
Oui.
Parce que si tu faisais du vélo, là, les gens, ils seraient chez eux, ils écouteraient la radio, ils disent, c'est pas très intéressant, on entend juste des bruits de pédales ou d'une roue. Donc, on fait autre chose?
Oui.
Par exemple, de la poésie?
Oui.
Et la poésie que tu vas nous dire, là, qui l'a choisie?
Moi.
Tu l'as choisie dans ton... Dans un cahier de poésie ou bien tu as des livres de poésie?
Dans un cahier de poésie.
De l'école?
Oui.
Mais ça te fait quel âge maintenant, Augustin?
8 ans.
Eh oui, 8 ans. C'est pas si jeune, 8 ans. Alors, comment s'appelle ce poème?
Les mots qui font vivre.
Eh bien, on va t'écouter.
Les mots qui font vivre. Il y a des mots qui font vivre. Et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur et le mot confiance. Amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis, Paul et Luard.
C'est magnifique, tu l'as très très bien dit. Voilà, tu es récompensé par un violon, c'est une tradition chez nous, un violon seul, une contrebasse, je m'en rends plus compte. Tu as des mots préférés, toi?
Non.
Tu préfères le mot paire de claques ou le mot sandwich au poulet?
Sandwich au poulet.
Eh bien, tu vois que tu as des mots préférés. Tu pars pour l'école?
Oui.
Eh bien, je te souhaite un sandwich au poulet. Merci d'être passé. Salut.
Au revoir.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Il est quasiment 8h, il est temps de se cultiver, il est temps de s'informer. L'animal du mardi avec François Rollin sous le haut parrainage d'Ahmed Khalif.
Mais oui, Edouard. Alors, la semaine dernière, nous avons fait la connaissance du tapir.
En effet.
Ce matin, le chamois.
À ne pas confondre.
Le chamois est un animal dont la peau, appelée peau de chamois, sert à lustrer les carrosseries automobiles. La peau de chamois est parfaitement adaptée aux peintures métallisées, aussi bien qu'aux peintures de type acrylique, utilisées notamment par les grands carrossiers italiens. De nombreux collectionneurs automobiles recourent au service de spécialistes appelés lustreurs-cireurs de carrosserie, qui peuvent gagner jusqu'à 17 000 dollars par mois, étant entendu que les peaux de chamois restent à la charge de l'employeur. Hein ? Une carrosserie d'époque, Edouard, doit être parfaitement sèche pour être lustrée convenablement par la peau de chamois. Si la carrosserie n'est pas parfaitement sèche, il est préférable de la sécher artificiellement avant d'entreprendre le lustrage. Usuellement, puisque vous me posiez la question, une peau de chamois reste efficace pendant 3 à 4 mois. Ensuite, il convient d'en changer en tuant un autre chamois.
C'est fini ?
Oui.
C'était Le Chamois, par François Rollin. Mieux connaître le monde animal, mieux connaître l'usage qu'on peut faire, nous autres, êtres humains, du monde animal. Une question d'Ahmed Khalif.
Oui, est-ce qu'avec la peau de chamois, on fait des canapés ?
Merci, le journal de Thierry Paret.
Parce que je voulais dire que Serge Lama... Chamois, il y a des canapés.
Non, alors ça va, je très vite.
Moi, je pensais qu'il y avait un capitaine dans cette matinale. Je comprends pas. Je comprends pas.
Il y a un guide, il y a une lumière. Hein, il y a un Faumba, il y a un homme qui incarne cette lumière, qui l'a fait électricité à lui toute seule. Seulement, tu es aveugle. Tu es aveugle du cœur et du cul, pardon de te le dire. Et tu ne vois pas cette lumière parce que tu ne veux pas la voir. Tu vis dans l'obscurité de ton âme qui est sale parce que tu as au fond de toi des désirs qui te dégoûtent. Mais suis-moi, suis cette lumière, va vers l'éveil et commence à m'envoyer une somme à ce compte en banque que je suis en train de voir. Voilà. Le journal de Thierry Paret, 8h01.
Il aura fallu plus de 2 semaines de chasse à l'homme pour retrouver et arrêter Abdulgadir Macharipov, auteur présumé de la fusillade du Nouvel An dans une discothèque d'Istanbul. Le suspect est un ouzbek de 34 ans. Il a été arrêté dans un appartement d'Istanbul qu'il occupait avec son fils de 4 ans. La police turque aurait aussi mis la main sur 5 complices présumés, dont 3 femmes. On va rappeler le bilan de cette fusillade du Nouvel An. 39 morts et plus de 60 blessés. 5 morts, ça c'est le bilan d'une autre fusillade dans une autre discothèque au Mexique. Cette fois, un homme a ouvert le feu dans la foule. Une simple dispute entre particuliers serait à l'origine de ce drame, et l'homme est toujours en fuite alors qu'il est
annoncé... C'est quoi votre nouvelle chronique drame en discothèque? Ça devient terrible, c'est lugubre votre information. Annoncez-nous à la fin du journal, annoncez-nous des trucs un peu marrants qui se sont passés la nuit.
Annoncez avec tambours et trompettes le discours que doit prononcer Theresa May en fin de matinée, la première ministre britannique est censée préciser son plan pour le Brexit à environ 10 semaines du déclenchement de la procédure de divorce avec l'Union Européenne qu'elle a annoncé donc pour la fin du mois de mars. Puisqu'on parle de l'Europe, les députés européens vont choisir aujourd'hui le nouveau président de leur hémicycle. Il s'agit de trouver un successeur à Martin Schulz. Après 5 années passées à la tête de l'institution, le président sortant entend retourner en Allemagne pour se présenter aux élections nationales. Les députés français doivent, eux, se prononcer demain sur un accord sans précédent de cogestion de l'île de Tromelin avec l'île Maurice, qui en revendique la paternité depuis 1976. Tromelin, c'est un îlot français inhabité et perdu au fond de l'océan Indien, au large de Madagascar, bien au large. Certains, surtout à droite, y voient un abandon de souveraineté susceptible de démanteler notre domaine maritime. Tromelin, c'est un simple caillou. Son poids économique est tout relatif, sauf qu'il s'accompagne d'un espace maritime de plus de 250 000 km², dont les sous-sols sont réputés riches en hydrocarbures. Le candidat à la présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, Philippe Poutou, en difficulté pour réunir ses 500 parrainages, a lancé un appel aux élus et aux médias au nom du respect de la démocratie. Donald Trump sera donc investi président des États-Unis vendredi. On en parle peu, mais de nombreux ambassadeurs vont être victimes de cette élection. C'est le cas de Rufus Gifford, ambassadeur américain en poste à Copenhague. Il va quitter ses fonctions, donc victime de cette élection de Trump. Rien d'exceptionnel en soi, sauf que l'homme au physique de mannequin est une star dans le royaume et c'est un vrai drame. Il a redéfini la mission diplomatique avec une émission de télé-réalité, par exemple, sur le service public, un livre de cuisine ou encore une biographie qui fait un carton.
Oui, il est formidable. Il a épousé son mec. C'est un personnage absolument légendaire. C'est un des premiers ambassadeurs à avouer ouvertement être gay. C'est un personnage absolument fantastique.
On était prévenu, et ça y est, on est dans le dur. Il fait très froid ce matin. Les températures, elles sont négatives, sauf sur le littoral. C'est une vague de froid intense qui va culminer demain. Demain, ce sera la pire journée en la matière et qui va s'étendre jusqu'à dimanche au moins. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE assure que les besoins en électricité de la France sont assurés aujourd'hui face à cette vague de froid, mais qu'il pourrait être amené à déclencher des mesures exceptionnelles à partir de demain. Selon l'Observatoire du Loup, des loups auraient été élus domicile dans le sud de la région parisienne, entre l'Essonne, les Yvelines et la Seine-et-Marne, sur une superficie de 100 000 hectares et ils ne seraient pas de passage, ils seraient vraiment posés là. La CAN, suite la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est du foot, le Congo a créé la sensation hier soir. soir en battant le Maroc 1-0. Et puis en handball, la France va affronter la Russie tout à l'heure. C'est ce soir, 20h45, le coup d'envoi. La France est première de son groupe, les Russes deuxième, et la France est déjà qualifiée pour les huitièmes.
Ah non, je vous le dis non. Vous voyez le handball, non mais c'est pas ça, vous dites le handball, il y a un peu de mépris, comme si c'était le parent pauvre du football ou du volleyball. Je trouve que c'est pas bien de faire ça.
Et même sur les loups, c'est...
Sur les loups, je sais pas, c'est puis quel loup, qui comme loup, c'est pas précis.
Quel loup, mais sur argenté, le loup des
forêts. Non mais sur le handball, vous voyez, Atmen, vous êtes trop gentil de passer si vite sur le handball, je trouve qu'on peut pas traiter. Vous savez même pas où qu'on met le ballon dans le handball, ça c'est senti que vous
embrouillez.
Où qu'on met le ballon dans le handball.
Dieu a créé le handball pour que les joueurs de foot aient aussi leur héros.
Merci. C'est beau.
C'est des questions compliquées.
Je vous le laisserai pas souvent le dernier mot, Thierry Paret. Jack, oui.
Oui, par exemple, le monsieur vient de me dire que vous ne me posez pas des questions compliquées, alors je vais les poser. Pourquoi quelque chose plutôt que rien ?
Pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Parce que quelque chose, c'est quelque chose. Hein. Ça a un contenu. Et que rien, bah, c'est rien.
Les trois fois rien.
Trois fois rien. Trois fois rien, c'est trois fois quelque chose qui n'est rien.
Monsieur a raison.
C'est-à-dire que c'est pas complètement vide.
C'est pas complètement vide, en effet, oui.
Et ce sont des petits riens, c'est mieux qu'un grand tout ?
Les petits riens, c'est mieux qu'un grand tout. Non. Un grand tout, c'est beaucoup de choses.
Mais tout est dans tout, en plus.
Et tout est dans tout, en plus.
Il n'est pas payé, quand même, Jack, souvent, pour nous ramener ça.
Moi, je vais reprendre un calva, parce qu'il y avait vraiment le café.
Ah bah, effectivement, deux. Ouais, on est en face d'un café, mais ce monsieur, il est chauffeur routier, et il a son camion, on est rue Ménilmontant, il y a une grande pente, Ménilmontant, le camion, le frein à main est bien mis.
Ah, le frein à main, le frein de parc, oui.
Alors, quand on est en face, bonjour monsieur, quand on est en face d'un café, il y a deux types de catégories, ceux qui vont y rentrer et ceux qui en sortent. À quel type de famille appartenez-vous ce matin ? Vous sortez du bistrot ou vous y allez ?
Je vais y aller parce qu'en fait je suis chauffeur, je stationne et puis je vais aller boire mon café et puis ensuite faire ma livraison.
Café mouillette, café rincette, café rhum, café calva, café arrosé, café sec.
Café calva.
Ah j'adore.
Ahmed, c'est tout ce que vous avez. Dites-moi monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans le camion ?
Un peu de tout, c'est pour une livraison de chantier.
C'est des trucs volés.
Ouais, voilà, c'est de la ferraille pour aller vendre dans... chez le ferrailleur.
Mais pourquoi vous décidez de vous arrêter dans une rue en pente ? Ça, je ne sais pas, monsieur. Là.
Parce que c'est une route en pente, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est comme ça. Vous
ne préférez pas vous garer sur du plat ?
Bah si, mais le plat, il n'y aurait pas le café en face. Et en fait, on se gare pas loin du café, quoi.
Je comprends bien. Jack ?
Vous allez livrer en marche arrière ?
Je vais livrer en marche arrière, c'est pour ça.
Est-ce que vous avez déjà dormi à l'arrière de votre camion ?
À l'arrière, non. Dans la cabine, oui, ça m'est arrivé.
Et vous n'avez jamais livré ? Moi, j'ai un fantasme, c'est un énorme camion, et on doit livrer un lit. Alors, il y a un lit à l'arrière avec des draps, puis on y habite, et puis on peut inviter des dames.
Ah ouais, ça, c'est un fantasme. Hein.
Oui,
c'est un fantasme.
Oui, je comprends bien.
Surtout si la fille est pas mal, quoi.
Oui, c'est dans l'autre cas, oui, il vaut mieux. Oui, je comprends bien. D'aller au café, quoi, oui.
Voilà.
Ah, ça part bien ce matin, on est bien, on est droit dans nos bottes ce matin, je crois.
Ouais. C'est chaud, hein.
On est propre, on est bien. Jack, allez boire un coup avec moi. Quel est votre prénom, monsieur ?
Aldo.
Ah, merci, Aldo. Allez me le saouler, mon Jack, souvent.
Et vous prenez la route tout de suite après.
Ok, ok.
Bonne journée, Aldo.
Merci. Aldo, on y va.
Nova.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Des vrais sujets, ça, des vraies angoisses du matin, le rouge ou le bleu. Il est 8h11, est-ce qu'Audrey Tautou est sur un tournage, en train de se réveiller dans un hôtel, ou est-ce qu'elle est à Paris, chez elle, on va le savoir.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non ?
Réveillons un monument national.
Sur les routes et dans nos rêves, sur les écrans et dans la vie réelle, les actrices se réveillent aussi parfois. Bonjour Audrey.
Bonjour Edouard.
Audrey, est-ce que je vous surprends juste avant le saut du lit ?
Pas loin. J'ai triché, je me suis comme fait un petit café.
Vous aviez eu peur de... Vous avez peur de se réveiller en sursaut, la sonnerie du téléphone et tout à coup...
J'ai eu peur des non-réponses que je risquais de vous donner.
je peux aussi tenter de ne pas vous poser de questions, peut-être dans des affirmations, et il vous suffirait d'acquiescer.
Il y a un grand risque pour que je me rendorme.
Est-ce que vous avez l'impression, quand on se réveille et qu'on se dit, tiens, mon réveil interrompt un rêve, est-ce que ça ne crée le rêve ou ça l'interrompt? Est-ce que vous avez rêvé, par exemple?
Eh bien, figurez-vous que j'ai rêvé de cette interview. Et quand je me suis réveillée, pour moi, elle a été faite.
Oui, mais elle est faite. Je vous rassure, ce n'était pas un rêve ni un cauchemar. C'est arrivé dans votre sommeil.
Eh ben, ouais.
Il y a des choses qui...
Elle était très bien, d'ailleurs.
Elle était bien, mais là, il faut peut-être qu'on reste là-dessus. Il y a des choses qui reviennent souvent dans vos rêves, des objets qui tombent, des dents que vous voulez récupérer, vos cheveux que vous perdez, des choses comme ça, qui sont des rêves courants.
Ah non, 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 j'ai pas ça. J'ai fait des cauchemars, mais pas de ce type.
Des cauchemars.
Poursuivi dans des forêts.
Et vous êtes poursuivi dans une forêt?
Ouais.
Et le monstre vous attrape?
Non, pas trop, je crois.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a un visage familier qui veut vous attraper?
Vous... Ce n'est pas toi, Edouard.
Vous êtes dans votre lit, Audrey, là?
Ah ouais.
Audrey, je vais vous demander, pensez à, comme l'hiver va être rude, comme nos vies sont parfois compliquées, donc je vais vous demander de nous aider et de nous décrire un petit peu votre lit.
Mon lit, il est bien, il est confortable.
On est sur des draps de couleur, des imprimés, sur un blanc traditionnel?
On est sur un lin, ouais. un peu ocre.
Vous savez qu'on reproche beaucoup au lin de gratter, d'être un peu rêche. Est-ce que vous supportez le rêche sur votre peau ou est-ce que vous êtes partisan au contraire d'un tissu caresse?
Je préfère le doux, mais ce sont des draps très vieux.
Oui, donc on est sur du midou.
Ils ne sont plus rêches du tout.
Du midou ou du mi-rêche?
C'est du lin qui a la sensation du coton. Voilà.
Mais ça n'est pas du coton. Vous avez l'idée du lin avec la réalité de sensation du coton.
Exactement.
Et ça, c'est important.
Enfin, je crois que c'est du lin, d'ailleurs. Hein. Non, je pense que c'est du lin.
On est sur un oreiller doux, un oreiller dur, un travestin. Pardon, traversin, c'est entre le travesti et le traverse.
Je sais, mais j'ai pas eu ça cette nuit. Non, oui. J'en ai pas eu cette nuit. On est sur du... quand même assez fin, on va dire.
Vous pratiquez...
Pas trop pépé.
Pas de pépé dans votre lit ce matin. Dites-moi, est-ce que vous pratiquez plutôt le vêtement de nuit ou est-ce que, comme Marilyn Monroe, juste un peu de parfum sous vos oreilles?
Ah, juste un peu de parfum.
Un peu de parfum.
Juste un peu de parfum. Le même, d'ailleurs.
Que vous mettez juste avant de vous coucher?
Non. Non, j'en mets pas juste avant de me coucher.
Peut-être vous êtes imprégné de ces bonnes odeurs.
Exactement.
Qui vous ont accompagné toute votre vie.
Toute la journée. Un peu de salelle, un peu de friture.
Et quand vous tournez, que vous êtes à l'hôtel, vous apportez des choses avec vous, vous disposez dans votre chambre?
Pas trop, j'en sais rien. Je m'étale un peu, mais j'emmène pas forcément des objets fétiches.
Vous allez heureuse vers la salle de bain, comme avec un rendez-vous avec vous, comme une contrainte hygiénique?
Quand?
Quand vous allez
tourner?
Non, quand vous allez vous laver.
J'y vais pas forcément heureuse, mais pas contrainte non plus. Mais il y a des gens qui vont heureux, qui vont d'un pas allant dans la salle de bain.
Oui.
Ah bon?
Ah oui, parce qu'il y a des gens qui vont fermer les yeux sous la douche, d'autres qui vont fumer allongés dans leur bain.
Ah ouais?
Ah oui.
J'aurais pas pensé, ouais.
Peut-être que vous n'avez pas la bonne température d'eau.
Ah non, mais une fois que j'y suis heureuse. Hein.
Est-ce que vous chantez sous la douche au risque de vous remplir la bouche d'eau?
Non, pas du tout. Non, je ne chante pas dans ma salle de bain.
Est-ce que le fait de chanter pour vous-même ou de siffler vous aide dans la vie? Est-ce que vous seriez capable de chanter dans votre lit ce matin pour nous?
Ah, de chanter dans mon lit?
Oui.
Oh là là, mon Dieu. Vous voulez que je chante quoi?
Quelque chose qui vous mettrait de bonne humeur.
Ce rêve... C'est dommage qu'il n'y ait pas Atmen.
Atmen! Il arrive. Si, Atmen qui est là ce matin. Atmen, il y a Audrey qui chante pour vous ce rêve bleu. Mettez votre casque.
J'envoie le début.
Hein? Atmen envoie le début.
Je veux t'ouvrir un monde aux mille et une merveilles. Dis-moi, prince.
As-tu jamais laissé parler mon cœur?
ensemble.
Ce rêve
je n'y crois pas, c'est merveilleux. Mais chante, Atmen.
Non, mais je t'écoute. Eh, dis-moi, je suis au McDo. Allô, Audrey, je suis au McDo. Tu écoutes?
Ah ouais. Ouais. Attends.
Vas-y, dis-moi.
Avec tes copines.
Ouais.
Je vais manger au McDo.
Ouais. Et alors?
Et tu vois, il y a des petits jeux.
Ouais.
Et à un moment, attends. J'adore cette chanson.
Mais c'est la chanson de Titanic.
Attends, je t'écoute. T'entends?
Oui, j'entends. Mais t'es où là?
Retour d'adolescence dans le cinéma français. Le matin, on a tous 14 ans. Audrey, je vous embrasse.
Oh là là, je vais éteindre.
Non, c'est bien.
Je vais m'endormir.
Vous pouvez vous endormir, Audrey, je vous embrasse.
Je suis crevée, je suis épuisée, nerveusement.
Vous pouvez vous reposer après cet énorme, ce don de vous que vous avez fait à 8h15. Je vous embrasse.
Mais moi aussi, je vous embrasse très fort.
Vous savez que vous êtes merveilleuse dans Ouvert la nuit.
Oh, mais le film est merveilleux.
Oui, mais c'est beaucoup.
Je suis tellement heureuse d'y être.
Je vous embrasse très très fort. Au revoir, beauté.
Et vous chantez très bien, Atmen.
Ouais, j'avais encore la voix un peu dans les chaussettes, mais c'était très mignon ce moment.
Non, vous êtes très bon en comédie musicale.
Ouais,
oui.
Bon.
Ah oui. François, vous êtes bien sur le canapé là-bas?
Oui. J'en fous pas une, comme on appelle.
Écoutez, ne le dites pas trop, parce que les patrons qui nous écoutent, puis après, sur la feuille de paix.
Les patrons, je les encule.
Allons. Rasseyez-vous là-bas. Non, dis donc. Allons. En voilà une qui travaille.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour. Je renverse tous les codes de la revue de presse ce matin.
Oh là, l'ami, oui. Oh là,
tout doux. En commençant par un article que j'ai lu non pas aujourd'hui, mais hier, dans La Croix.
C'est culotté.
Et ça ne se fait pas.
Vous avez quand même lu des choses aujourd'hui.
J'ai lu des choses aujourd'hui, okay. Mais ça m'a donné envie de revenir sur cette histoire d'hier, sur une exposition qui a lieu dans l'abbaye des Ardennes, près de Caen, et qui s'appelle L'ineffacé, le brouillon, fragment, éclat. En gros, l'exposition, comme l'article de La Croix, est un éloge au brouillon, aux pages raturées, à ses 99 titres, barrés par Francis Ponge, par exemple, sur une feuille intitulée « Recherche de titres », aux hésitations des artistes. Pour Metin Arditi, qui écrit l'article, ce que cette exposition offre, c'est l'instant essentiel où l'artiste se saisit de sa liberté. En ratant, en raturant par exemple. L'importance de rater, de raturer, de gommer, de se planter, de se gourer dans les grandes largeurs. L'importance des hésitations et des erreurs crasses est aussi mise en valeur dans la revue L'éléphant. Ces temps-ci, un entretien avec le neuroscientifique français Stanislas Dehaene est très clair sur la question. Se tromper, c'est la base de l'apprentissage. C'est en ratant qu'on comprend, c'est en ratant qu'on réussit. On devrait plus valoriser l'erreur, la table de multiplication ratée, la poésie balbutiée dans le processus d'apprentissage, et l'éducation française devrait s'y mettre. C'est ce que Stanislas dit. Bon, apparemment, c'est pas vraiment vers là qu'on voit. C'est pas la priorité absolue de l'éducation nationale, qui est plutôt sur la réforme des collèges. Et la hargne des professeurs s'exerce d'ailleurs sur cette réforme des collèges dans un article que je qualifierais de drôle. Le Figaro explique que sur Twitter, la bataille fait rage autour de la réforme et que les débats sont d'une vivacité qui n'ont pas de rapport avec l'influence des profs sur les réseaux sociaux. Ceci dit, ça n'a jamais empêché personne d'avoir des débats très vifs, de ne pas avoir d'influence.
C'est formidable Twitter parce qu'il suffit qu'il y ait 15 tweets un peu contre quelque chose, la Twittosphère s'enflamme.
Il y a
peu d'autres endroits dans le monde où quand 15 personnes sont en colère, ça fait autant de bruit.
Et oui, alors ça c'est les profs sur Twitter en plus, donc c'est la Twittosphère professorale s'enflamme. Sachez qu'en ce moment même sur Twitter, une véritable guerre violente, sans merci mais non sans victime, a pour objet la sauvegarde du complément d'objet direct. D'un côté de la bataille, nous avons les conservateurs qui détestent la réforme des collèges, et de l'autre, nous avons ce que Figaro appelle les pédagogistes. C'est un vrai nom, les pédagogistes. Dans les plus forts moments de la bataille, un des pédagogistes pro-réforme a même hérité du surnom de pédagogole. Et ça va...
Allez remonter, ma Marie-Missée.
pédagogol. Et ça va encore plus loin, car dans une belle tradition un peu misogyne de l'invective sur Internet, une prof pro-réforme s'est fait menacer de mort et de viol, on ne sait pas dans quel ordre, par Cripure, un prof agrégé de lettres que la défense du COD met apparemment à cran. On ne sait pas comment tout ça va se terminer pour le COD, mais sachez que s'il y a un compte qui ne prend pas parti ni pour les uns ni pour les autres, c'est celui du café pédagogique qui fait une veille remarquable, nous dit Le Figaro. Libé le disait aussi il y a quelques semaines, donc quand Libé et Le Figaro sont d'accord sur quelque chose, ça vaut peut-être le coup de regarder. À l'école, se tromper n'est pas vraiment valorisé, et quand on grandit, encore moins. Le problème, c'est que plus ça va, plus ça se voit. D'ailleurs, l'Humanité nous fait part de son inquiétude quant à la surveillance technologique de plus en plus forte des employés, dans un souci toujours de productivité, d'efficacité. La palme revient comme régulièrement à Amazon, qui impose un rythme de 3 minutes entre chaque badgeage d'article, même si les entrepôts font la taille de 7 terrains de football. Si vous dépassez les 3 minutes, un manager vient vous voir, pas pour vérifier que vous n'êtes pas en train de vous étouffer dans votre transpiration, mais pour vous urger un petit peu. Amazon avait même...
Vous urgez. Ah oui.
Il vous urge.
Ça veut dire quoi? Vous dépêchez, vous pressez.
C'est
vous...
l'urgence, quoi. Ah oui, c'est pas un mot.
Écoutez,
moi aussi, je me suis urgée pour finir cette revue de presse. Amazon avait même mis des caméras dans les vestiaires au cas où certains se baladeraient trop longtemps en slip, mais les délégués du personnel ont réussi à la faire enlever, cette caméra. Aux États-Unis, ça va souvent plus loin puisque, sous prétexte de veiller à leur santé, de plus en plus d'entreprises donnent des bracelets connectés à leurs employés. Ils peuvent comme ça surveiller leur sommeil, leur poids, leur rythme cardiaque. Dans l'entreprise Atnea, par exemple, si vous dormez bien, eh bien vous avez une prime à la fin de l'année. Dans une entreprise, le bracelet compte les pas, hein, une autre entreprise, et donne tous les jours le classement de ceux qui marchent le plus dans la boîte. Du coup, la patronne dit « Eh bien, c'est merveilleux, quand je demande qu'on m'apporte un dossier, plus personne ne grommelle. Les employés se battent pour monter à pied les étages et grimper dans le classement quotidien. » On a donc réinventé
du baume au cœur ce matin.
Le paternalisme encore plus près de toi, Edouard.
Merci, merci. Marie Misset. Elle est belle, votre colère, elle est sincère, elle revient de loin, elle est saine. Mettez-moi quelque chose de beaucoup plus doux pour la psychanalyse de Marie Misset, s'il vous plaît, Armel.
Ah, doux, de la douceur.
Ouais, on voudrait psychanalyser. Marie ?
Oui.
Non, ça, c'est pas doux.
Non, d'où vient-elle cette colère ? Est-ce que c'est une colère professionnelle ou est-ce que c'est une colère humaine, fondée sur l'observation, sur un vécu
Ça remonte.
Ouais.
Ça remonte. Il y a eu des histoires. Il y en a eu d'autres.
T'as pris des coups, t'en as rendu. Il y a eu une enfance, bien sûr. Alors, mangez pas toujours chaud chez les Misset. Hein. Ouais. Le pain noir, fallait le gagner.
C'était bon, fallait le gagner.
Bien sûr, il y a plus de cailloux que de lentilles dans la soupe chez les Misset.
Et ça me donne ce truc assez acéré comme ça.
Cette niaque. Alors, attends, Atmen veut absolument me faire sa chronique sur la nuit de la bande-annonce. Alors,
ben oui,
alors c'est maintenant parce que j'ai pas d'autre. Ah non, il y a quoi, Armel ?
Bah, il y a de la pub. Hein,
alors, choisissez.
Mais justement, alors, suite, la bande-annonce, c'est une pub.
Vous préférez la pub ou la chronique d'Atmen ? Tout de suite, un auditeur.
Moi, personnellement, alors d'abord, je tiens à défendre mon accent. Et deuxièmement, je préfère la pub parce que Atmen, il nous gonfle.
Qui l'attaque, ton accent ?
Souvent, Monsieur Baird vous disait que faut pas parler avec un accent. Parce
vous
que
méprisez,
vous n'aimez pas les
gens du Sud.
Voilà.
Je savais que j'allais vous gonfler.
Non, moi, je suis pour votre chronique, mais faites-la pendant la pub.
D'accord.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Alors, il y a énormément de choses qui se bousculent au portillon, mais commençons d'abord par Thierry Paret, je crois que c'est le mieux.
Oui, il est là.
Ça vous a arraché la gueule, oui, le générique, Armel.
J'ai cassé le jingle, il faut faire.
Alors, on le fait à la bouche.
Vous faites à la bouche, allez-y, je vous en prie. Non, je préfère sortir, excusez-moi.
Non, alors on le fait quand même.
On était prévenus.
C'est vraiment artisanal. C'est très poétique, parce que tout est réparé au dernier moment. François Rollin colmate une brèche pendant que Atmen soutient le studio.
J'éponge à ce qu'il y ait une fuite.
Allons-y.
On était prévenus, on est dans le dur. Il fait donc très froid ce matin. Les températures, elles sont négatives, sauf sur le littoral. C'est une vague de froid intense, inédite, qui va culminer.
L'hiver, je crois, très
exactement.
Simplement.
Ça va culminer demain. C'est assez inédit quand même. Ça va culminer demain. Demain sera la journée la plus froide de la semaine, oui, parce que cette vague de froid, elle va s'étendre jusqu'à dimanche au moins. Dans un courrier, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, enjoint les opérateurs de transport de prendre, je cite, toutes les dispositions nécessaires pour anticiper ces températures exceptionnelles.
Exceptionnelles, on n'avait jamais vu ça depuis 2012, c'est-à-dire presque 5 ans, c'est énorme. Et cet été, il va peut-être faire très chaud, folie.
Les gens râlent tout le temps.
Le monde est devenu fou. Il fait trop chaud, trop froid, il fait trop normal.
là. Là, c'est trop normal.
Froid ou pas, en tout cas, il y aurait des loups en région parisienne et pas seulement de passage. Hein. Ils se seraient posés entre l'Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne sur une superficie de 100 000 hectares, si l'on en croit l'Observatoire des loups.
Ils se sont posés. Les loups se sont posés. Comme des pigeons, quoi.
Cette phrase pareil. De Christian Clavier dans Les Visiteurs. Il y a des loups, monseigneur.
Il aura fallu plus de...
sorti du journal.
Il aura fallu plus de 2 semaines de chasse à l'homme pour retrouver et arrêter Abdulgadir Macharipov, auteur présumé de la fusillade du Nouvel An dans une discothèque d'Istanbul. Le suspect est un ouzbek de 34 ans. Il a été arrêté dans un appartement d'Istanbul qu'il occupait avec son fils de 4 ans. La police turque aurait aussi mis la main sur 5 complices présumés. On va rappeler le bilan de la fusillade. 39 morts et plus de 60 blessés. 5 morts, ça c'est le bilan d'une autre fusillade dans une autre discothèque au Mexique. Cette fois, un homme a ouvert le feu dans la foule. Il est en fuite. Une simple dispute entre particuliers serait à l'origine de ce drame. Ouverture aujourd'hui à Davos, riche station suisse de ski du Forum économique mondial. 3000 personnes sont attendues sur place, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Cette année, le Forum va accueillir la plus grosse délégation chinoise de son histoire, emmenée par Xi Jinping en personne. C'est la première fois qu'un président chinois fait le déplacement à Davos. Annoncé avec tambours et trompettes, le discours que doit prononcer Theresa May en fin de matinée, la première ministre britannique, est censée préciser son plan pour le Brexit à environ 10 semaines du déclenchement de la procédure de divorce avec l'Union européenne. Fin mars. Puisqu'on parle de l'Europe, les députés européens vont choisir aujourd'hui le nouveau président de leur hémicycle. Il s'agit de trouver un successeur à Martin Schulz. Après 5 années passées à la tête de l'institution, le président sortant allemand entend retourner en Allemagne pour se présenter aux élections nationales. Les députés français vont se prononcer demain sur un accord sans précédent de cogestion de l'île de Tromelin avec l'île Maurice, qui en revendique la paternité depuis 1976. Tromelin, c'est un îlot français inhabité, perdu au fond de l'océan Indien. Certains, surtout à droite, y voient un abandon de souveraineté susceptible de démanteler notre domaine maritime, parce que Tromelin s'accompagne d'un espace maritime de plus de 250 000 km², dont les sous-sols sont réputés riches en hydrocarbures. Le candidat à la présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste NPA, Philippe Poutou, en difficulté pour réunir ses 500 parrainages, a lancé un appel aux élus et aux médias au nom du respect de la démocratie. L'américain Eugene Cernan, dernier astronaute à avoir marché sur la Lune en 72, est décédé. Il avait 82 ans. Il fut le troisième homme à effectuer une sortie dans l'espace. La Cannes, suite. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est du foot. Le Congo a créé la sensation hier soir en battant le Maroc 1-0.
Sensation !
Au programme aujourd'hui, Ghana, Ouganda et Mali, Égypte. Et puis, la suite du 25e championnat du monde de handball en France. Dans le groupe A, la Russie a battu la Pologne hier 24-20. Succès russe qui permet au pays d'occuper la deuxième place du groupe derrière l'équipe de France. Succès qui permet par ailleurs aux experts, donc à l'équipe de France, de se qualifier pour les 8e de finale avant même la fin des phases de poule. Prochain match des Bleus ce soir, 20h45, face justement à la Russie.
Merci mon champion. Et puis la nouvelle rubrique de 8h34, fêtons un anniversaire en Corse. Aujourd'hui nous sommes en Haute-Corse à Galeria, à moins d'une demi-heure de Calvi, et c'est l'anniversaire d'Alain Poisson.
Bonjour. Eh oui.
Bon anniversaire Alain.
Eh bien comment vas-tu mon cher Edouard ?
Alain Poisson, grand éclairagiste de théâtre qui a choisi de mener une retraite heureuse avant un retour triomphant à Paris. Alain, quel est le temps ce matin en Corse ? Quelle est l'atmosphère au village ?
Eh bien écoute, il a failli neiger toute la nuit. Ça a menacé tout le temps, mais ça n'a pas été méchant.
Donc tu vas pas aller en mer ?
Ah non. Et puis alors, la neige au niveau zéro, c'est toujours surprenant et merveilleux.
Est-ce que quand on ne va pas en mer, on va au bistrot ?
Eh ben non, je vais en dialyse.
Une dialyse à fou rire, c'est la nouvelle rubrique. Tu vas à Bastia ?
Eh ouais, je vais à Bastia là tout à l'heure.
Et qui t'emmène ?
Eh ben, j'ai un taxi, Ange, un copain.
Et combien de temps pour y aller à Bastia ?
Il faut 2 heures pour y aller.
Oh la vache.
Je fais 3 heures de dialyse et après je rentre 2 heures après.
Bon, mais alors...
La journée est finie.
Bon, mais alors comment tu t'en tires ? Tu rigoles un peu avec lui dans le taxi ?
Qu'est-ce que je fasse à pas rigoler ?
Tu es magnifique. On pense à toi très fort, on te souhaite un bon anniversaire.
Happy birthday to you.
Ça c'est Atmen qui est là avec moi.
Ah oh, bah oui, Atmen alors.
Comment tu vas ? Ça va. Eh ben, bon anniversaire, ça fait plaisir.
Bon.
Bon, et à Bastia, c'est sympa ? Tu as le temps de te balader dans Bastia ou tu repars direct après ?
Mais non, t'es fou, je fais l'aller-retour à chaque fois.
Et tu vas combien de fois par semaine ?
À Bastia, c'est sympa, je suis dans un lit bien blanc dans l'hôpital avec une machine qui me pompe le sang. D'un côté, le sang rentre, il ressort de l'autre, et puis voilà.
Et puis voilà.
Normalement, chaque fois, je suis nettoyé. C'est ça quand on a fait les cons jeunes, voilà le travail.
Eh bien, on est avec toi, mon Alain. Je t'embrasse très, très fort.
Ben, merci. Écoute, à bientôt.
N'hésite pas à m'appeler quand tu t'emmerdes dans le taxi dans la journée. Je t'embrasse.
Hein? D'accord, allez. Salut.
Salut mon Alain. Salut. Voilà, pendant qu'Alain Poisson, qui a fait toutes les lumières de mes spectacles, un mec merveilleux, donc la part pour Bastien en voiture pour sa dialyse. Bonjour. Nous sommes dans les rues de Paris avec Jacques. Qu'est-ce qui se passe?
Il veut pas y aller?
Mais non, lui va à la crèche.
Il veut pas y aller, on dirait?
Si, il voulait y aller. Ah!
Qu'est-ce qui se passe?
Tu veux pas y aller? Oh,
Une merde, elle fiche.
Et s'il va à la crèche, il est peut-être pas en âge de répondre à vos questions.
Non, exactement.
À moins qu'il ait triplé sa crèche, mais enfin.
Il tient sa trottinette verte avec les deux mains bien crispées.
Il a droit à garder sa trottinette à la crèche? Je crois pas, moi.
Il est bloqué.
Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Décrivez-nous.
Il venait accompagner sa grande sœur.
Décrivez-nous la scène.
Accompagner sa grande sœur.
Il venait accompagner sa grande sœur.
Oui.
Il a laissé. Il a...
Jacques, on voudrait être au courant de la situation exacte, s'il vous plaît.
Bah, je ne peux pas, là. La dame s'en va, mais je vois un monsieur qui décroche son vélo de course.
Alors, il y a un vélo de course qui est décroché. Il y a un gamin qui lâche pas sa trottinette pour aller à la crèche, qui accompagne sa grande sœur.
Exactement.
Une dame s'en va.
Merci de rétablir la situation visuellement, parce que ça part dans tous les sens.
Oui, alors c'est vous qui êtes là et moi je suis loin.
Une belle selle en cuir, un homme moustachu avec un petit foulard rouge, une casquette un peu années 40.
Ça s'appelle un cravat.
Ça s'appelle quoi?
Un cravat.
Alors, années 40, je sais que vous y êtes beaucoup amusé pendant ces années-là, Jacques, souvent.
Oui, je suis désolé, tout le monde est à la bourre.
Jacques, souvent, vous qui avez connu, vous me disiez jamais on ne s'est amusé à Paris qu'entre 40 et 44. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase?
Bah, oui, c'était la belle époque.
Oui, c'était l'époque. Vous étiez dans les restaurants que vous fréquentiez, vous étiez le seul à ne pas être en uniforme allemand, je rappelle.
Oui, il faut quand même le signaler.
Vous êtes dans quel quartier?
Là, je suis rue Rampal.
Très bien.
Et je vois une... Oui.
Non, j'ai rien contre vous, mais si vous n'avez personne...
Bonjour.
Alors, la baguette coupée en deux, comme ça, sous le bras, c'est normal?
C'est pas une baguette coupée en deux, c'est une baguette entamée.
Voilà. Bien répondu, madame. Vous laissez pas faire. Et pas dans les dents.
Vous avez croqué dedans?
J'ai croqué dedans.
Voilà.
Et dans le petit sac, c'est quoi ce sang?
Eh ben non, c'est des petites galettes des rois, parce que j'ai pas tiré les rois avec mes petits-enfants. Là, voilà. Donc, je prévois ça ce soir.
Et on y va, là, on va prendre un petit café?
Non, j'ai pas le temps, malheureusement. J'ai vraiment pas le temps. Et j'ai rendez-vous. Donc, j'ai rendez-vous.
Elle a croqué dans la baguette, la dame de la rue Rampal. Elle a croqué dans la vie, elle a croqué dans la pomme. Elle a croqué dans nos oreilles, elle a croustillé avec les cartilages de nos oreilles. Merci, madame. Vous n'avez pas le temps, mais en croquant dans cette baguette, si tôt le matin, vous nous avez donné... de l'espoir. Non, la baguette n'était pas coupée. Non, la baguette n'était pas perdue. Elle était déjà croquée avant d'arriver à la maison. L'impatience, le goût de mordre dans la vie. Merci pour ce message d'espoir.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Merci l'enfant. Puisqu'il est 8h43... Nous sommes avec Marie-Cécile Nave, l'auteur de Trump, l'onde de choc populiste aux éditions FIP, et nous avons décidé de la confronter à Thomas Baumgartner, que nous aimons intellectuellement et physiquement.
Ah ben, merci Edouard. On voulait vous inviter Marie-Cécile Nave aujourd'hui parce que vendredi, quelque chose se passe. Les États-Unis changent officiellement de président. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et vendredi, c'est l'investiture de Donald Trump. Et aujourd'hui, bien malin, qui... peut dire quelle sera la politique de Donald Trump? Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que c'est une forme de nébuleuse ou de mystère, les politiques de Donald Trump?
Exact. Oui, on est d'accord dès le départ. Ça va bien. Oui, c'est très, très incertain. On a une idée d'un projet de société, mais après un programme précis, pas encore. Alors peut-être qu'une fois qu'il sera investi et que les relations avec le Congrès démarreront de manière beaucoup plus formelle, on aura plus d'indications, mais pour l'instant, ça reste assez vague. Et je ne suis pas sûre que lui-même ait une précision des mesures en tête de ce qu'il veut faire, surtout comment il va les financer, parce qu'il y a beaucoup de choses assez contradictoires dans son projet. À la fois, par exemple, construction d'infrastructures financées par les fonds fédéraux et puis une baisse très forte des impôts, notamment sur les sociétés et sur les plus aisés, sachant qu'ils ont déjà beaucoup d'avantages fiscaux. Donc ça, c'est un exemple de contradiction. En politique internationale aussi, il y a plusieurs paradoxes dans les annonces qui sont faites. Un rapprochement très fort avec la Russie et puis un désengagement par rapport au nucléaire iranien, ce qui est quand même aussi paradoxal. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir suivre de près.
Et quelques attaques ce matin à l'égard de l'Union européenne et de l'Allemagne en particulier.
Voilà, les relations diplomatiques avec l'Union européenne sont assez mal engagées, mais c'est aussi pour... c'est aussi, il y a une part de provocation. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce jeu-là du côté européen. Et d'ailleurs, les dirigeants européens ne sont pas tombés dans le piège.
Mais vous voulez dire qu'en dehors de la provocation, du goût du scandale, des tweets et des petites phrases, il n'y avait pas de vrai programme Trump imprimé, édité ?
Alors, il fait des provocations, mais c'est quand même en partie calculé. Par exemple, hier, le jour de Martin Luther King...
L'anniversaire de la mort de Martin Luther
King. Oui, c'est le Martin Luther King's Day, qui est un jour férié aux États-Unis. Il a tweeté contre John Lewis, qui est un des anciens des mouvements des droits civiques dans les années 60, parce que John Lewis, qui est un représentant à la Chambre, a dit qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture. Et donc Trump a fait des tweets pas très sympathiques contre lui, mais je pense que c'est aussi un calcul pour cliver un peu plus le pays. Et alors que ça, justement, il va faire un discours vendredi, sans doute avec un message d'unité, voilà. Mais c'est quand même, il y a quand même un calcul de cliver le pays pour être un peu comme le sauveur, l'homme providentiel qui va finalement réconcilier tout le monde après avoir
la révolution
divisé tout le monde.
Oui.
Et après, en termes de programme précis, non, je pense pas, parce que un autre exemple qu'on peut prendre, c'est le fait qu'il annonce qu'il va supprimer et remplacer immédiatement la réforme de la santé d'Obama, ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut, pour un grand nombre de mesures, s'il veut les remplacer, il lui faudra 60 votes au Sénat et 60 voix au Sénat, et les Républicains n'ont que 52 sièges. Donc ça ne pourra pas se faire. Et du côté du Congrès, on commence un peu à être inquiet, y côté chez les Républicains.
Oui, il a inquiété les Républicains déjà pendant la campagne. Là, il y a une forme de ralliement de la part des Républicains, mais voilà, parce qu'il faut bien, parce qu'il est président, il va l'être vendredi. Alors vous dites, Marie-Cécile Neuve, que le programme est mystérieux, mais qu'il y a un projet de société, celui d'une Amérique nostalgique, blanche, patriarcale, fermée sur elle-même et quasi autosuffisante. Mais là aussi, est-ce que c'est imaginable?
Alors, c'est pas imaginable dans si on regarde à quel type de mesures ça conduit. En revanche, ça crée une dynamique, parce que ça crée à la fois une confiance du côté des gens qui sont nostalgiques, effectivement, d'une Amérique patriarcale, blanche, anti-immigration, ou le politiquement correct qui est l'antiracisme, le féminisme, etc., est vu comme vraiment un des gros mots MAUX de la société. Et en même temps, ça crée de la défiance vis-à-vis des progressistes, des démocrates. Donc tout ça c'est performatif, hein. C'est des discours performatifs, donc ils peuvent avoir des effets. Après, en termes de mesures, de programmes, on verra. Mais Trump, en fait, il est effectivement, c'est un phénomène typiquement américain, mais je trouve qu'il correspond bien à toute une vague, c'est pas très original de dire ça, mais c'est une vague qui existe dans l'ensemble des pays occidentaux. On voit bien, nous, avec la campagne présidentielle qui se profile, il y a aussi cette nostalgie d'un âge d'or mythifié, une France chrétienne, blanche, sans immigration, où on retourne aussi au patriarcat, où les droits des femmes, des homosexuels, bon ça c'est des trucs de bobos de parisiens, etc. Et c'est pas les vrais problèmes des Français. Et ça c'est aussi une sorte de projet de société qui correspond à un passé mythifié, nostalgique, qui est, je trouve, assez similaire à ce qui se passe aux États-Unis. On est souvent en miroir, hein, on se moque beaucoup de Trump, mais finalement, nous, en France, on a aussi ce genre de tentation.
Alors, il paraît qu'en matière de droits des femmes, de reconnaissance des homosexuels, tout simplement d'une société libérale au sens large, son futur vice-président, Mike Pence, est pire encore que lui, c'est vrai ?
Oui, Mike Pence, c'est un ultra-conservateur qui est favorable, par exemple, aux thérapies pour soigner les jeunes homosexuels, pour les remettre dans le droit chemin. C'est assez populaire, hein, chez les Républicains, ça, aux États-Unis. Ça existe dans certains États. Il est contre l'avortement, quelles que soient les situations, y compris en cas de viol, d'inceste, de malformation du fœtus. Et ça aussi, ça correspond à un état d'esprit assez général. C'est quelqu'un qui est très méfiant vis-à-vis des droits civiques et des droits des minorités. Et je crois que Trump l'a choisi à dessein. C'est-à-dire qu'il voulait donner des gages à cette Amérique ultra-conservatrice qui rêvait de tourner la page d'Obama. Alors que sur un certain nombre de ces sujets, Trump, ça ne l'intéresse pas tellement. Les droits des homosexuels, il s'en fiche un peu.
L'opportunisme est de son côté, finalement, aussi.
Oui, c'est un opportuniste qui apparaît comme quelqu'un de farfelu, qui provoque tout le temps, qui est cervelé. En fait, tout ça, c'est calculé derrière l'image qu'il veut donner au grand public. Et on l'a vu aussi lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Il veut donner une image de lui qui en fait correspond quand même à un calcul, à une stratégie politique savamment élaborée. C'est pour ça que c'est quelqu'un d'assez fascinant à observer.
Que vous avez observé à travers ce livre qui est sorti au mois d'août, Trump, l'onde de choc populiste avant qu'il soit président. Comment on peut imaginer aujourd'hui que la société américaine pourrait réagir à la société civile d'un côté, et puis on peut imaginer une forme de regain, une forme de contre-culture, une forme de résistance culturelle, c'est possible ça?
Alors, il y a deux types d'opposition à Trump qu'il va falloir observer, du côté du Parti démocrate, mais qui est quand même très fragilisé par sa large défaite de novembre, aussi, non seulement à la présidentielle, mais aussi aux élections du Congrès. Et du côté de la société civile, et la société civile se mobilise déjà cette semaine. Il y a des dizaines de demandes de manifestations anti-Trump, c'est assez inédit, toute la semaine à Washington, avec point culminant qui est samedi avec la marche des femmes.
Dès le lendemain en fait, de son investiture, il y a déjà des manifestations prévues. Oui.
Et puis les gens qui sont favorables à la protection de l'environnement.
Ça va créer plein de mouvements, voilà. Ça va créer toute une génération
Et moi je pense que ça va être intéressant à regarder du côté local, au niveau des États fédérés, comment ça va pouvoir impulser, faire du lobbying auprès des dirigeants dans les États fédérés sur les questions d'environnement, sur le droit au port d'armes, sur les droits des femmes, sur les droits des Noirs. Qu'est-ce qui va arriver de Black Lives Matter sous la présidence Trump, c'est ça qu'il va falloir regarder avec attention.
Merci Marie-Cécile Nave. Vous allez faire quoi ce matin là? Vous allez donner des cours?
Pas ce matin. Je vais aller lire et écrire, lire la presse parce qu'il y a beaucoup de.
Je vous imaginais en train de lire une sorte un roman de dans l'évasion, non?
Aussi, ça m'arrive aussi, mais plutôt le soir quand j'ai fini ma journée.
Quand vous êtes pleine de Trump et tout ça, vous allez courir, vous allez taper dans un sac, vous allez faire quoi?
Je vais nager.
Ah voilà, nager. Eh ben nous aussi. Merci beaucoup. Trump, l'onde de choc populiste. Marie-Cécile Nave, bonne journée.
Merci. Merci à vous.
Si vous voulez jouer à chercher l'intrus avec François Rollin d'ici 5 minutes, appelez-nous 01 43 07 58 85. Un jeu a priori sans cadeau. Cherchez l'intrus 01 43 07 58 85 avec François Rollin.
Édouard, le morceau est terminé. Édouard,
il y a des gens qui appellent, il y en a qui ont raccroché. Alors, morceau n'a qu'à continuer. Je trouve que c'est incroyable.
Standard à sauter.
C'est le désavantage de mettre des disques. Il y aurait un groupe, il continuera à jouer tant qu'on ne prend pas la parole. Alors, dès qu'on met un truc un petit peu. Alors, il y a le grand jeu qui est très attendu, François. Vous êtes conscient de l'attente que vous suscitez?
Oui.
Alors, on avait plusieurs auditeurs. Il y en a un qui a raccroché quand il a su que Atman était là. Parce que, comment? Alors, on est en ligne. Finalement, on a gardé la deuxième qui a appelé. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom?
Je m'appelle Marine.
Marine, bonjour. Vous appelez d'où?
J'appelle de Paris.
Vous habitez à Paris. Très belle ville. Très belle ville, Paris. Je rappelle Paris, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, bien sûr.
Croissant, café au lait.
Oui, oui. Tout ça. Vous êtes, quelle est votre spécialité? Vous êtes dans quelle branche?
Dans la marine.
Non, c'est son prénom, François. Soyez. Et une acuité.
Non, pas du tout. Je travaille dans la couture.
Très bien. Eh bien, je comprends que vous ne vouliez pas en dire plus, parce que ce sont des métiers qui sont liés à l'intimité. Marine, vous allez jouer avec François Rollin à chercher l'intrus.
Alors, chercher l'intrus, alors je vous donne un exemple. Par exemple, voici 5 mots, chercher l'intrus. RTL, Europe 1, Énergie, Nova, France Inter. Bon. Eh bien, l'intrus, c'est Nova, parce que Nova, c'est vachement bien, alors que les autres, quelquefois, c'est pas terrible. Voilà, donc vous avez compris le principe du jeu. Alors maintenant, attention, première épreuve, Marine. Une série de 5 mots, donc chercher l'intrus. Musaraigne, pélican, cravate, éléphant, requin.
Cravate?
Non.
J'aurais dit cravate aussi.
Non, c'est requin parce que c'est le seul mot qui ne comporte pas la voyelle A.
Ah oui, c'est inattendu.
Oui. Voilà.
Il y avait un piège.
Le total de Marine, c'est zéro pour l'instant. Deuxième question, une nouvelle
beaucoup,
série de mots.
Il faut le rappeler, c'est pas...
Écoutez bien cette série de mots. Sexe, fellation, baiser, religion, plaisir, jouissance, érotisme.
Religion.
Eh bien non, l'intrus est plaisir parce que c'est le seul mot qui commence par un P.
Ah oui,
c'est pas facile. Et voici la dernière question.
C'est pas facile.
La dernière épreuve, c'est la plus difficile. Donc parmi ces deux mots, cherchez l'intrus. Saucisson et pigeon. Et vite.
Pigeon,
le chronomètre tourne. Oui, l'intrus est pigeon parce que le pigeon est le seul à manger occasionnellement du saucisson, alors que jamais on a vu un saucisson manger du pigeon, sauf une fois, Edouard, mais c'était un faux saucisson et un faux pigeon.
Merci François. Marine, merci.
J'aurais pas trouvé.
Vous
moi.
N'avez pas gagné. Est-ce que vous avez appris des choses quand même pendant ce jeu, Marine?
Oui,
notamment sur l'histoire du saucisson et du pigeon.
Oui, vous êtes la seule. Je vous remercie de votre esprit d'ouverture et de concorde et ce pas que vous faites vers l'autre. Vous allez coudre quoi ce matin, Marine ?
Alors là, je travaille sur un corset.
Oh, tu comprends la vie, ma grande. Un corset pour serrer un petit peu le...
Le corset.
Oui, on vous embrasse très très fort, Marine. Merci d'avoir joué avec nous. François ?
Oui, un corset.
Vous avez... Parce que les gens se demandent, c'est beaucoup de travail, ces questionnaires, ces jeux ?
Oui, et puis c'est surtout l'intention de, comment dirais-je, il y a une intention pédagogique énorme. Quoi,
oui, parce qu'il y a du ludique, mais il y a du pédagogique.
Ah oui, voilà.
Vous me disiez, je ne veux pas faire rire sans apprendre en même temps.
Oui, non, oui. Je ne saurais même pas.
Et parfois, même quand le rire n'est pas là...
Oui, il n'était pas là.
Ouais. Oui, c'est-à-dire que entre la connaissance par le rire, ben finalement, s'il n'y a pas le rire, c'est plutôt plus drôle.
C'est votre côté moine-soldat, un peu...
Moine. Ouais.
Moi, j'ai appris plein de trucs, quand même.
Oui, mais pas pendant l'émission. Merci beaucoup. Je vous propose l'enchaînement publicité journal de Thierry Paret, qui marche très bien en fin d'émission. À demain.
Oui, et je voudrais dire que demain, il y aura la bande-annonce. De la bande-annonce.
Ah oui, vous vouliez parler de la nuit à bande-annonce, on en parlera oui,
une autre fois.
Merci, messieurs, dames.
Merci.
7h-9h, près de toi.
Pardon Thomas, pardon Yacine. 9h02, le journal, c'est dire qu'on a dérapé de 2 minutes, Thomas.
Voilà, bah, tu peux le
avec,
dire.
Avec mes excuses et un gros bisou.
Un petit peu d'autocritique, ça fait pas de mal.
Ouais.
Bisous, Edouard.
J'ai été trop loin, salut.